Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Le grand festin de la grâce. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 22, le Seigneur Jésus raconte l'histoire du roi qui fait un grand festin pour son fils. Il commence par y inviter généreusement toutes ses connaissances. Vous pensez probablement que tous ces invités privilégiés ont accepté avec joie d'être conviés au grand festin royal. Eh bien non, ces invités ont refusé. Et comme motif de leur refus, ils ont prétexté leurs multiples occupations. À travers ce récit, le Seigneur Jésus explique ce que Dieu fait aujourd'hui. Il invite les hommes à venir à la grande fête de sa grâce. Il invite tout d'abord ceux qui ont de nombreuses raisons d'accepter cette invitation. Elle est gratuite car Dieu n'accorde pas son pardon aux hommes contre de l'argent ou de bonnes œuvres. Il aime les hommes et il désire simplement qu'ils bénéficient de l'œuvre du Seigneur Jésus pour eux. C'est sa grâce merveilleuse. Aujourd'hui, comme dans l'histoire, beaucoup d'hommes et de femmes bénéficient des bontés généreuses de Dieu. Par exemple, la santé, une famille, un enseignement religieux, etc. Dieu les invite instamment à venir à Jésus, à croire en lui et à recevoir le pardon de leurs péchés. Mais pour beaucoup d'entre eux, les choses visibles de la terre, pourtant passagères, sont plus importantes que l'invitation de Dieu lui-même. Et ils négligent l'essentiel. Leurs raisons sont futiles, mais ils refusent l'offre généreuse de la grâce de Dieu. Erreur fatale. Jésus raconte ensuite que le roi veut quand même avoir des invités à son festin. Il appelle alors les mendiants, les aveugles, les estropiés. Dieu désire aussi que son ciel soit rempli de gens heureux. C'est pourquoi il invite au festin de la grâce les blessés de la vie, les laissés pour compte, ceux pour qui on n'a généralement aucune considération. Il ne met personne de côté à cause de son origine culturelle, de son rang social ou de la couleur de sa peau. Dans l'histoire, chacun se voit offrir un beau vêtement de noces. De même aujourd'hui, Dieu revêt de vêtements du salut. Ésaïe chapitre 61 verset 10. Il revêt ainsi quiconque se répand et croit que le Seigneur Jésus est mort pour lui. Dieu lui enlève sa condamnation et sa culpabilité, lui pardonne, le déclare juste. Êtes-vous justifié devant Dieu? Dieu seul rend juste celui qui croit en lui. Il le lave de tous ses péchés. Il est écrit dans la Bible, « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean chapitre 1, verset 7. Certains pensent qu'ils ne sont pas coupables devant Dieu parce que leur comportement leur semble très correct en général. Mais en réalité, ils sont comme cet homme qui est entré dans la salle du festin avec ses propres habits sans être vêtu du vêtement de noces que le roi offrait à chaque invité. Savez-vous quel a été son sort? Il a été jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des regrets et des pleurs amers. Jamais vous ne regretterez d'avoir été gracié par Dieu. Un jour, tous les rachetés seront ensemble autour de Christ. Ils célébreront l'amour de Dieu qui les a invités et reçus en sa présence. Ils seront comme assis à table. Ils se réjouiront dans une communion parfaite et goûteront une joie éternelle avec leur Seigneur, le Fils de Dieu. Ils se souviendront toujours qu'il s'est fait homme, qu'il est venu sur la terre afin de les chercher et de donner sa vie sur la croix en rançon pour eux. Aujourd'hui, vous entendez l'appel du Dieu d'amour à venir au festin de la grâce. Acceptez tout de suite, sans attendre un jour de plus. L'assurance du salut. Ceux qui croient au Seigneur Jésus peuvent-ils être sûrs de leur salut? Peuvent-ils être certains d'être définitivement à l'abri du juste jugement de Dieu sur eux à cause de leurs péchés? Beaucoup doutent que ce soit possible et disent même que c'est de la prétention ou de l'orgueil de penser qu'un chrétien peut avoir la certitude de son salut. Alors, ce doute leur apporte du trouble et de l'angoisse. Ils ont cependant reconnu et confessé leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus, mort pour eux sur la croix de Golgotha. Ils l'ont accepté comme leur sauveur. Ils ont bien lu dans la Bible la dernière parole du Sauveur sur la croix, « C'est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30. Pourtant, ils doutent encore. Si vous êtes une de ces personnes ayant des doutes, voici quelques passages de la Bible, la parole de Dieu. Ne pas croire, c'est dire que Dieu est menteur. Croire ce que Dieu dit, c'est cela qui honore notre Dieu. Ces versets vous aideront à trouver la paix intérieure et la certitude de votre salut si vous les croyez. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Psaume 32, verset 5. C'est le roi David qui a écrit cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1 verset 12. Ces paroles ont été écrites par l'apôtre Jean. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma voix et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5 verset 24. Ces paroles ont été prononcées par Christ lui-même. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leur iniquité. Hébreux chapitre 10, verset 17. C'est une promesse de Dieu citée du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 34. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Deux certitudes, une exprimée par l'apôtre Paul, l'autre par l'apôtre Jean. Le Seigneur affirme, mes brebis, moi je leur donne la vie éternelle et elles ne périront pas à jamais. et personne ne les arrachera de ma main. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Jean, chapitre 10, versets 27 à 29. Être un chrétien authentique. Tu es peut-être né dans une famille chrétienne. Tu fréquentes plus ou moins régulièrement un service religieux. Cela ne fait pas de toi un vrai chrétien. On devient un chrétien authentique, un vrai chrétien, après s'être repenti de ses péchés et après avoir reçu le Seigneur Jésus dans son cœur. Jean chapitre 1 verset 12. Dieu vient alors sceller du Saint-Esprit celui qui croit. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Il est né de nouveau. Voici le témoignage d'un chrétien. Je suis devenu un chrétien authentique quand j'étais adolescent. J'ai confessé mes péchés et j'ai cru au Seigneur Jésus, mort et ressuscité. Il est mort en sacrifice sur la croix pour expier tous mes péchés. Romains chapitre 4 verset 23 à 25, chapitre 10 verset 9. Dieu dans son amour m'a pardonné et m'a accordé le droit d'être son enfant. Jean chapitre 1 verset 12 et verset 13. Le jour même, je suis né de nouveau et je suis devenu un chrétien authentique. Adhérer au christianisme de façon extérieure ne suffit pas. Il faut une œuvre intérieure accomplie par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, la Bible. Comment cela se produit-il? Comme dans le témoignage relaté plus haut, il faut dire à Dieu avec sincérité « Je reconnais avoir commis des péchés et être un pécheur condamné à tes yeux. » Puisque tu me dis dans la Bible que Jésus a porté sur la croix le châtiment que je mérite, alors j'accepte le pardon que tu promets à quiconque se repent et croit. Ensuite, le véritable chrétien montrera par ses actes et par son comportement qu'il est réellement un enfant de Dieu. Quand tu plantes un bananier dans ton jardin, il produira des bananes et non pas des citrons. De même, un chrétien montre les fruits de la vie que Dieu lui a donnée par son attitude, ses paroles et ses actes. Il aime les autres au lieu de les détester. Il est reconnaissant au lieu d'être mécontent. Il est paisible au lieu d'être querelleur. Il s'applique à vivre justement, etc. Il fait tout par amour pour Dieu et pour le Seigneur Jésus.
Et qui a fait de nous avoir.
Notre Dieu nous console. Dans une création qui subit les dures conséquences du péché, Romains chapitre 8, verset 22, dans une société dirigée de façon cachée par le diable et où les hommes vivent sans respecter Dieu, le chrétien se rend compte qu'il est étranger. Il est comme de passage. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Il vit dans le monde, mais il n'en fait pas partie sur le plan spirituel. Jean chapitre 17, verset 14 à 16. Car il appartient au ciel qui est sa vraie patrie, là où est Jésus-Christ, son Seigneur. Sur la terre, les souffrances, les injustices, les jalousies, les méchancetés, les mensonges sont très nombreux parmi les hommes. Le chrétien souffre parce que le péché abonde autour de lui. Il résiste au mal pour être fidèle à Dieu, mais cela provoque de la moquerie ou de l'opposition, quelquefois de la persécution. Il souffre car il subit des peines et des douleurs, comme tous les hommes, la maladie et le deuil par exemple. Il souffre aussi quand il se laisse tenter par le péché au lieu de lui résister, et quand il ne se laisse pas diriger par l'Esprit de Dieu. Mais notre Dieu déclare qu'il est le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Alors chaque fois que la souffrance atteint notre corps, notre esprit ou notre âme, allons à lui pour chercher la consolation. N'allons pas la chercher ailleurs. Notre Dieu nous consolera par la lecture de la Bible et en particulier par ses promesses. Romains chapitre 15, verset 4. Par le Saint-Esprit, appelé par Jésus le Consolateur, et par le moyen des frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus a réellement souffert quand il était sur la terre. Il est maintenant remonté au ciel, mais il n'est pas indifférent à tout ce qui nous touche. En particulier, il compatit avec nous dans notre faiblesse et intercède en notre faveur. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 15. Romains chapitre 8, verset 34. Il nous fortifie en nous disant « Aie bon courage » Actes chapitre 23, verset 11. Ou « Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe chapitre 43, verset 1. Quand nous souffrons, il attire notre attention sur la gloire qui sera la nôtre avec lui. L'apôtre Paul est un modèle de vie chrétienne. Il a écrit « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne mérite pas d'être comparé avec la gloire qui va nous être révélée. » Romains chapitre 8, verset 18. Chrétien, le Seigneur vient bientôt chercher son Église. Nous entrerons donc bientôt dans la gloire du ciel où le Seigneur se trouve déjà. Quelle merveilleuse consolation nous y est préparée. Là-haut, Dieu essuiera toute larme, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Attendre le retour du Seigneur. Je questionnais un vieillard chrétien très très pauvre. Pourquoi es-tu toujours heureux? Tu espères des jours meilleurs? Tu attends quelqu'un? L'homme âgé me répondit ceci. Quand le Christ a été cloué sur une croix pour subir la punition de mes péchés, un brigand a été crucifié à son côté. Ce malfaiteur allait mourir le jour même. Mais il s'est repenti et a placé sa confiance en Jésus-Christ. Alors il a entendu Jésus-Christ lui dire, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce jour-là a été le jour le plus merveilleux de sa vie, le jour où il est entré au paradis avec Jésus. Pour moi, dit le vieillard, j'attends la glorieuse venue du Seigneur pour chercher tous ses rachetés. C'est pour bientôt. Alors, j'entrerai dans la présence de mon Sauveur avec tout ce qu'il aime en vérité. Je me réjouis beaucoup d'être bientôt avec lui, de le voir et de l'adorer. Le Seigneur a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. » Jean chapitre 14, verset 3. Et « Je viens bientôt. » Apocalypse chapitre 22, verset 7, verset 12 et verset 20. Sa venue peut se produire aujourd'hui. Il enlèvera tout ce qui lui appartient, qui forme son Église. Ce sera le plus beau jour de notre vie, pour nous chrétiens, un jour de gloire et d'allégresse. Nous serons toujours avec notre Seigneur, notre Sauveur, semblables à lui dans la paix, la joie et associés à sa gloire. C'était Écho de la Bonne Nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse, Écho de la Bonne Nouvelle, 01, boîte postale 832, Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.